Grâce à son assurance d'essai, toutes celles et ceux qui vous sont chers sont pris en charge par Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La prévention en santé, c'est protéger son organisme, se débarrasser de mauvaises habitudes, en adopter de nouvelles qui respectent notre corps et nous font du bien. Prendre soin de soi, c'est d'abord se nourrir correctement et éviter la sédentarité. Bonne alimentation, activité physique régulière. Pas toujours facile lorsque l'on vit en ville avec la pression du quotidien. Les heures aussi que l'on passe devant les écrans, pas toujours facile non plus lorsqu'on succombe au refrain alléchant de la nourriture vite faite, pas toujours très bien faite. Grignoter, consommer des aliments qui ne correspondent pas aux besoins de l'organisme, bouger, bien manger. Si ces deux axes de prévention sont aujourd'hui admis et connus par le plus grand nombre, ça ne suffit pas toujours. Il faut parfois des explications, des conseils pour réussir à se motiver, pour en finir avec des habitudes toxiques, adapter sa façon de manger à une maladie par exemple, sucre, sel, matière grasse, quelle quantité, quelle fréquence, faut-il carrément renoncer à certains aliments? Et en matière d'activité physique, trouver le sport qui nous correspond, qui nous fait du bien, trouver le bon rythme, des questions pratiques, des réponses concrètes, sport, nutrition, notre programme du jour dans Priorité Santé. Et pour cette émission spéciale, hein, sport et nutrition, en compagnie de nos deux chroniqueurs autour de cette table, le docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour Stéphane.
Médecin du sport, vous faites plus vite que moi, à Paris, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, vous l'avez dit, Stéphane, c'est Stéphane Besançon qui est aussi à nos côtés. Bonjour Stéphane.
Bonjour Caroline, bonjour Jean-Marc.
Nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et pour poser nos questions, bien sûr, notre numéro, hein, 33 84 22 75 75, la page Facebook de l'émission. On attend vos appels et vos messages.
Priorité santé sur RFI.
Les appels et questions des auditeurs, ce sera dans quelques petites minutes. Mais d'abord, docteur Jean-Marc Sen, petit point d'actualité pour parler du sport sur ordonnance, puisqu'en France, la Haute Autorité de Santé Publique a publié un guide, un petit fascicule à destination des médecins pour les encourager à prescrire du sport aux patients qui sont atteints de maladies chroniques. Alors, docteur Sen, de quoi s'agit-il ?
Bien, voilà, Caroline, la démarche là qu'a fait la Haute Autorité de Santé part d'un constat. D'abord, l'impact de l'activité physique sur la santé, aujourd'hui, c'est vrai, est largement documenté. On sait comment, sur de nombreuses maladies, il y a un bénéfice. Mais malheureusement, c'est insuffisamment connu des médecins. Et il existe, deuxième constat, peu d'outils pratiques pour les aider à mener une consultation médicale correcte dans le domaine. Alors là, la Haute Autorité de Santé a décidé de publier un guide qui s'appelle « Promotion, consultation et prescription d'activités physiques et sportives pour la santé ». Et le but, c'est de lever les freins et c'est d'essayer de favoriser le développement de la thérapeutique non médicamenteuse qu'est l'activité physique. Alors, le guide va reposer sur plusieurs éléments. D'abord, un socle de connaissances générales, hein, rappeler tous les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Essayer de mettre aussi un déroulé de consultation qui permet justement de pouvoir prescrire correctement cette activité physique. Et puis enfin, délivrer des outils pratiques, comme un questionnaire d'aptitude, évaluer le risque d'événements cardiovasculaires pendant qu'on fait de l'activité physique, ou alors évaluer la condition physique pour aider le médecin, encore une fois, à faire correctement ce travail. Alors, 6 référentiels, pour commencer, qui traitent de pathologies comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle. Alors, je vais dire un gros mot, la bronchopneumopathie obstructive, chronique obstructive, c'est une maladie pulmonaire chronique.
C'est un gros mot, on va d'ailleurs y consacrer une émission dans une dizaine de jours.
Voilà, et puis des maladies coronaires, et puis l'accident vasculaire cérébral. Voilà, ça c'est déjà un premier pas, et c'est vrai que cet outil, je crois, va vraiment pouvoir aider les médecins à passer le pas de prescrire l'activité physique.
Alors, on va vous retrouver dans un instant, docteur Sen. On a entendu le mot diabète, je me tourne vers vous maintenant, Stéphane Besançon, dans l'actualité justement, pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la lutte contre cette maladie chronique, métabolique. On le sait, cette lutte est au cœur des préoccupations de votre association Santé Diabète. L'accès aux soins, l'accès aux produits, c'est depuis toujours une question clé. Et aux États-Unis, eh bien, une plainte assez intéressante, plainte donc en justice contre titre des labos, laboratoires pharmaceutiques. Et ce qui est en cause, Stéphane, ce n'est pas vraiment nouveau, hein, c'est le prix de l'insuline.
Oui, alors tout à fait. Alors, ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que le marché de l'insuline au niveau mondial, c'est plus de 30 milliards de dollars. Donc c'est un marché qui est colossal, que se partagent à peu près trois compagnies, trois géants pharmaceutiques. Et depuis de nombreuses années, pour les pays du Sud, il y a une grande bataille sur cette question d'accès à l'insuline. Alors ce qui change un peu et ce qui devient nouveau, c'est que dans beaucoup de pays même dits riches, des pays du Nord, comme les États-Unis, le prix a tellement augmenté que ça devient aussi un enjeu, puisqu'on a eu, par exemple, aux États-Unis, il y a deux mois, le premier patient diabétique de type 1 par manque d'accès à l'insuline parce qu'il ne pouvait plus la payer. Donc il y a cette question aux États-Unis du prix qui vraiment monte de manière exponentielle, hein, puisque si on prend un type d'insuline qui s'appelle la Levemir, on est passé de $120 le flacon en 2012 à quasiment $300 maintenant, c'est-à-dire le prix a augmenté de quasiment 150%. Donc ça a commencé avec Bernie Sanders, le sénateur américain, qui a lancé un premier procès pour entente sur les prix et inflation trop importante des prix. Et là, c'est l'État du Minnesota qui attaque ces trois compagnies pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils devront s'expliquer comment le prix s'est envolé de 150, voire 200%, comment des patients se retrouvent aux États-Unis à payer 10 à 15 000 dollars par an juste pour l'insuline, pas pour le diabète dans sa globalité. Donc on imagine bien pour des gens qui ne sont pas assurés ce que ça représente, 15 000 dollars par an, c'est complètement colossal. Et comme les courbes de prix aussi ont évolué de manière un peu similaire, il y a un soupçon, donc je dis bien soupçon parce que la justice devra faire son travail et on ne sait pas du tout si c'est prouvé ou pas, d'entendre sur les prix pour avoir un marché à peu près qui se tient. Donc voilà où on en est, et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que comme c'est aux États-Unis, bah ça engage des associations comme l'Association américaine du diabète, beaucoup plus puissante que des associations du Sud.
Des gens qui ont les moyens de se défendre.
Voilà, et ça amène beaucoup de réflexions plus grosses que ce que nous, des petites structures, sans être péjoratifs, vont amener sur ce débat-là, donc c'est extrêmement intéressant et il faut suivre ce que ça va donner dans les prochaines semaines.
Et les prochains mois, parce qu'on est juste au début de cette procédure judiciaire. Voilà pour ces deux coups de projecteur liés à l'actualité. Tout de suite, bien sûr, la parole aux auditeurs de Priorité Santé. Et le premier de ces auditeurs nous appelle du Gabon, de Libreville. C'est Wilfried qui est en ligne. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
On vous écoute Wilfried.
Oui, pour moi, mon souci était, ma préoccupation, je dirais, était celle-là. Bon, depuis que je suis tout petit, après chaque repas, je ne prends pas du temps de digestion. Après avoir mangé, déjà pour commencer, je mange très rapidement, moins de 15 minutes pour achever un repas. Et puis après ça, je ne prends pas le temps de digestion. Tout de suite après, si j'ai une activité, je me donne à cette activité-là. Tout petit encore, pour revenir, puisqu'on jouait beaucoup au foot avec des camarades et des frères, voilà. Après un repas, comme ça, je pouvais m'adonner tout de suite au foot, en prendre du temps de digestion. Et là, aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai toujours cette arrière-manière-là de m'adonner toujours aux activités auxquelles je suis quotidiennement.
Vos activités régulières. Alors, avant de donner la parole à nos spécialistes, hein, je vais juste vous poser une petite question, toute simple, Wilfried. Pourquoi est-ce que vous mangez aussi vite? Vous êtes pressé par le temps? Vous avez beaucoup de choses à faire?
Non, c'est pas le temps. Il y a d'abord comme une habitude.
Une habitude.
Et puis après, je trouve du plaisir à manger rapidement.
D'accord.
Lorsque je mange lentement, ça augmente mon ratio et puis après, je prends pas de plaisir en fait. Je déguste en mangeant rapidement.
D'accord. Vous aimez avaler. J'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous avez des douleurs abdominales? Est-ce que vous avez, comme on dit, un petit peu du mal à digérer du coup à force d'avaler aussi rapidement votre repas?
Pas vraiment. Je suis en très bonne santé et voilà, depuis j'ai jamais connu d'hospitalisation où je tombe quasiment jamais malade.
Donc, après, mais malgré tout, vous inquiétez pour vous dire, est-ce que manger si vite, ça pourrait être mauvais pour ma santé? Donc je me tourne vers Stéphane Besançon pour cette question.
Alors, à la fois la question de manger rapidement et puis la question du timing de manger pour faire du sport, il y a deux questions différentes. Alors, la première, manger rapidement, il faut mieux, effectivement, pour bien digérer et puis pour arriver à un effet de satiété et pas manger trop, il faut mieux manger plutôt lentement parce que plus on va manger rapidement et plus on va manger en qualité parce qu'on a un effet de satiété qui ne se fait pas.
Pourtant, c'est l'inverse que semble croire Wilfried. Il dit que plus il mange vite, plus il est calé.
Oui, alors je pense qu'il doit y avoir un effet, je sais pas, peut-être psychologique ou d'habitude, parce que normalement c'est plutôt l'inverse. Et après, pour l'activité physique, je pourrais pas dire que c'est mauvais pour la santé, mais là je vais passer la balle à Jean-Marc. Je dirais plutôt que c'est pour la qualité de l'activité physique qu'il peut y avoir une difficulté, peut-être en étant ballonné, on est juste après manger, on est plus sur un problème de qualité de l'activité physique et de la digestion que de réellement un problème de santé.
Malgré tout, sur cette rapidité d'avaler des repas de plus en plus courts, c'est une tendance général, les gens prennent de moins en moins de temps pour manger.
Oui, et c'est un vrai problème parce que normalement tout ce qui est de mâcher, ça fait aussi la découpe des aliments qui après vont arriver dans l'estomac et vont être plus facilement digérés. L'absorption aussi va être répartie dans le temps, donc effectivement les recommandations vont plutôt vers manger plutôt lentement. Pour arriver à avoir cet effet de satiété et une meilleure digestion.
Alors justement, docteur Jean-Marc Sen, l'impact de cette manière de s'alimenter quand on a une activité sportive régulière, comme c'est le cas pour Wilfried, qui est adepte du foot.
Oui, alors effectivement, parce qu'on sait que on mange très très rapidement, eh bien on va effectivement déclencher voilà cette digestion. Donc ça veut dire qu'en finalement, il débute une activité physique et sportive en étant en phase de digestion. Et le problème que ça pose, c'est déjà un problème, on va dire, de performance sportive. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait marcher ses muscles, eh bien on a besoin d'augmenter la vascularisation, c'est-à-dire le sang qui arrive au niveau des muscles. Eh bien là, le sang, il est dérivé au niveau du tube digestif. Et donc ça, c'est une première chose qui peut empêcher de développer totalement son activité physique. Évidemment, il y a l'inconfort, hein. On pense à l'inconfort que cela peut entraîner. Et puis, chez certaines personnes aussi, quelquefois, quand il y a véritablement ce ballonnement qui est très important, et je pense qu'on a des variations de température importantes, on peut même entraîner des réactions vagales. Hein. C'est pour ça, quelquefois, même des malaises. Et c'est pour ça, quelquefois, on déconseille aux gens d'aller se baigner juste après avoir fait un gros repas. Donc, ça peut, on peut dire, aller de la simple perte de performance, bon, voilà, à l'inconfort, voilà, et jusqu'au malaise qui peut, dans certaines situations à risque, entraîner des choses qui peuvent être dangereuses. Donc, effectivement, il y a tout intérêt, là, enfin, évidemment, on se rejoint,
à changer certaines habitudes.
Voilà, et à laisser passer une certaine durée, je dirais probablement 2 heures, entre le moment où on a mangé et où on commence à faire de l'activité physique.
Et Wilfried, est-ce que vous vous sentez prêt justement à changer ces habitudes qui sont ancrées en vous depuis des années et des années ?
Je pourrais très bien.
Je pense que déjà le début, c'est que vous avez eu cette démarche de vous poser la question, ça veut dire déjà que vous êtes dans le début de ce processus, vous allez vers un changement.
Effectivement, c'est pas facile, puisque c'est depuis l'enfance. Et puis après, je me pose une question, j'aimerais savoir si c'est cela qui est à l'origine du fait que, après un repas, peut-être trois heures après, j'ai encore faim. Et les 3 heures, peut-être chaque 3 heures, en fait, j'ai ce besoin-là de manger.
Ben peut-être par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane Besançon, par rapport au sentiment de satiété, manger doucement, c'est aussi se donner le temps de ne plus avoir faim.
Oui, exactement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus on va manger vite, plus le sentiment de satiété va venir tard et plus on va multiplier aussi les besoins et les prises. Donc, il faut absolument ralentir aussi de ce côté-là. Attendre, faire l'activité physique et du coup en fait c'est après ça va être de re-réguler ce qu'on conseille souvent les apports alimentaires en fonction de l'ensemble de la journée, de l'ensemble des activités. Donc ça c'est très important aussi de bien équilibrer tout ça sur la journée.
Donc on ne peut que vous encourager, hein, docteur Sen et Stéphane Besançon vous encourage sur votre intuition, ralentissez la cadence pour être plus en forme et aussi plus performant sur les terrains de foot, sur les stades. Donc, merci et très bonne journée à vous au Gabon, à Libreville, Wilfried. On va partir pour la Centrafrique, pour Bangui, où on retrouve Victor. Bonjour Victor.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Victor.
Merci. J'ai deux questions là. La première, c'est que chez nous ici, à chaque samedi, il y a des groupes de gens, des grandes personnes qui font des sorts sous la marche. Et à la fin de la marche, ils prennent de la soupe et puis accompagné de l'alcool. Alors je me pose cette question, est-ce que c'est une bonne pratique? Qu'est-ce que ça apporte dans la marche qu'ils ont pu faire? La deuxième question, c'est que j'ai 62 ans, ma femme a 45 ans, elle est obèse, hein, elle a un peu du poids, et nous comptons faire de la marche. Alors j'aimerais avoir des conseils. La marche, la distance que le docteur peut nous proposer pour un début, et puis le temps, et qu'est-ce qu'on peut prendre à la fin.
Victor, on va répondre à votre question. J'ai juste une petite question à vous. Vous dites ils boivent de l'alcool. Quel type d'alcool? Et en petite ou en grande quantité?
Ça, c'est en grande quantité. C'est de la bière. C'est de la bière en grande quantité. Et puis, il y a des gens qui prennent aussi de vin, du vin.
Mais c'est-à-dire qu'ils sont carrément en état d'ébriété ou c'est juste pour s'hydrater?
Bon, justement,
ça fait la différence. Ça fait la différence.
Oui, c'est... Ils disent que c'est pour récupérer, quoi, pour récupérer. Non, je ne sais pas récupérer, quoi, je ne sais pas.
Bon, je vais d'abord me tourner vers le docteur Sen, hein, vos questions sur la marche pour vous, pour votre épouse. Une bonne pratique, la marche, non?
Oui, absolument. La marche, c'est vraiment l'activité physique la plus simple, la plus accessible, celle qui coûte le moins cher. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, j'ai noté effectivement, à la fois donc pour Victor et à la fois pour son épouse. Alors, il a noté que son épouse était en surcharge, en pondérale, c'est-à-dire elle avait un peu de poids. Alors, évidemment, là, la contrainte que l'on recherche, c'est la contrainte mécanique sur les genoux, sur les hanches. Et là, il y a un intérêt éventuellement à faire ce qu'on appelle de la marche nordique, hein, même si on est en Centrafrique, on peut faire de la marche nordique en prenant des bâtons, effectivement, et ce qui va permettre de répartir le poids. Ça va être particulièrement intéressant parce que ça va faire travailler bien sûr les jambes, mais ça va faire travailler aussi le haut du corps. Alors, à quelle intensité est-ce qu'il faut faire ça? Eh bien, il faut faire ça à une intensité modérée. Alors, quand on a dit ça, ça veut dire que on va emmener notre souffle. On va emmener notre souffle, on va suer légèrement, mais on sera toujours capable de parler. Donc, s'il marche avec son épouse, eh bien, il doit continuer à parler avec son épouse, hein, à se raconter... les histoires de la vie quotidienne et puis vérifier qu'elle peut toujours parler, que son souffle n'est pas coupé.
Victor posait la question sur la distance.
Alors la distance, on va parler d'une durée. Une fois qu'on a cette intensité, c'est-à-dire que le souffle est un petit peu emmené, on a la sueur. Eh bien, l'idéal, c'est de commencer peut-être par 15-20 minutes. Pourquoi pas 30 minutes? Et puis commencer 3 fois par semaine peut-être à faire cela. Et là, pendant, on va dire, au moins 3 semaines ou 1 mois. Donc l'idée, c'est d'avoir cette intensité modérée, de voir si on est capable de tenir 15, 20, 30 minutes. Si c'est le cas, commencer par, voilà, 30 minutes de marche, entre 15 et 30 minutes de marche, 3 fois par semaine. Et puis, continuer à faire cela pendant au moins 1 mois pour voir si l'organisme s'adapte. Hein. Et puis, au bout d'un mois, eh bien, à ce moment-là, où on allonge légèrement la durée, 35, 40 minutes, ou bien on augmente un petit peu la fréquence, le mieux étant d'allonger d'abord la durée au bout d'un mois, et puis de 2 mois, et ainsi de suite.
Voilà pour l'activité physique. Maintenant, la question de Victor, Stéphane Besançon. Comment récupérer après, s'hydrater, de la soupe, de la bière, dans quelle quantité? Est-ce que c'est bon?
Ouais, je dirais que je séparerais en deux déjà pour ce qui est de la réhydratation. Enfin, c'est après la soupe, ça me semble plutôt pas mal. Réhydratation, suivant ce qu'il y a dedans, ça va faire un peu de renutrition aussi. Donc ça me semble plutôt intéressant et plutôt une bonne chose. Maintenant, la question de l'alcool, j'allais dire si c'est une bière plaisir, un verre de vin plaisir. Il vient pas, j'allais dire, dans un contexte de réhydratation, de récupération. Il vient comme un événement plaisir, dans un moment social. On est avec des amis. Mais il faut surtout pas faire du vin ou de la bière un aliment ou un produit de réhydratation et de récupération. Dans les deux cas, ça ne l'est pas. C'est de l'alcool en plus. Donc, il faut vraiment séparer les deux et rester, mais comme on le conseille toujours, dans des quantités raisonnables pour l'alcool, parce que l'alcool, tout alcool qui soit, reste de l'alcool.
Voilà, Victor, pour ces réponses. Docteur Sen.
Oui, c'était juste pour souligner, effectivement, quand c'est dans ce contexte qui est, on va dire, de convivialité, on est dans la récupération psychologique, c'est sympathique. Attention, parce que la bière, c'est de l'alcool, ça déshydrate, et puis ça a une fonction de freiner ce qu'on appelle l'hormone antidiurétique, c'est-à-dire d'augmenter la
déshydratation. Et en tout cas, c'est pas parce qu'on a fait du sport que ça permet de boire plus d'alcool.
Ah, du tout.
vrai, mais ça peut aussi être... Alors, les gens peuvent le croire. J'ai marché pendant une heure, je me suis beaucoup dépensé, du coup, je vais pouvoir boire davantage. Voilà. C'est faux.
Alors, c'est très important ce point, Caroline, parce qu'on entend souvent ça, un peu comme si le sport allait nettoyer, l'alcool. Les dégâts cellulaires ou les dégâts métaboliques de l'alcool, ils sont de toute façon là. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Donc, il faut bien être conscient de ça, c'est un point extrêmement important.
Voilà pour ces réponses. Victor, une excellente journée à vous à Bangui. Et donc, ces encouragements à aller marcher en compagnie de votre épouse. On va partir pour la RDC maintenant. Kinshasa, où l'on retrouve Roméo. Roméo, bonjour.
Oui, bonjour Caroline, vous allez bien?
Ça va bien, on vous écoute.
Ok, bon, en version courte, en fin février 2018, j'avais commencé à ressentir des petites douleurs au niveau de la laine. Du côté gauche, et par moments, ça sensibilisait quelques petits enflements à cet endroit, et je me suis dit, bon, tellement que je ne suis pas médecin, je me disais, j'ai été renseigné auprès de mon frère médecin qui est en France, par téléphone, il me dira d'aller à l'hôpital auprès d'un autre de ses collègues médecins. Et j'ai été diagnostiqué exactement le 5 mars, que c'était un début de dernier, mais étant demandé pas encore une intervention chirurgicale. Cependant, il m'a été recommandé certains, interdits, qui ne m'arrangent pas. Donc, ne pas porter trop de poids, ne pas trop, ne plus chanter, ne plus, vous connaissez, vous êtes médecin, vous savez tout.
Non, je suis pas médecin, je suis journaliste, je le dis tout de suite. Bon, mais on a un médecin à cette table, c'est docteur Jean-Marc Sen. Donc, des interdits suite à cette hernie qui est localisée au niveau de l'aine, même si je ne sais pas vraiment, docteur Sen, s'il est interdit de chanter lorsqu'on a une hernie à l'aine, je l'ignore. Est-ce que vous pouvez nous poser votre question, justement, Roméo?
Oui, la question principale, c'est que, moi, j'aime manger bio et puis j'aime faire un peu de sport, de marche, de gymnastique et tout. Et vu tout ce qui m'est interdit là et vu surtout qu'il s'est dit s'il arrivait que ça s'aggravait, parce que maintenant c'est encore de manière bénigne, il pourrait arriver que ça puisse exiger une intervention chirurgicale. Moi je n'aimerais pas arriver par là. À ça. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir si par le simple, par un mode de vie très, par des exercices physiques, sport et par une bonne alimentation, on pourrait éradiquer ces malaises. Voilà.
Question de Roméo, est-ce que la prévention peut venir à bout de sa hernie? Même si, bien sûr, on ne peut pas consulter on l'a dit à chaque fois et on le dit tous les jours, on ne consulte pas par les ondes radiophoniques. C'est impossible.
C'est très, très compliqué. Mais effectivement, bonjour Roméo, ce qu'il faut dire, c'est qu'il existe plusieurs types de hernies, en fait. Dans cette région inguinale, il y a des hernies qui sont d'abord de localisation différente, relativement basse, inguinale, puis des hernies un petit peu plus hautes, qu'on appelle quelquefois la hernie du sportif, qui est en fait un peu une zone un peu de déhiscence abdominale. Alors ça, bien sûr, il faut demander au médecin qui vous a examiné pour bien savoir de quelle hernie il s'agit, parce que ça n'a pas tout à fait le même pronostic. Et puis, la deuxième chose, c'est quelle est l'importance de cette hernie, évidemment. Est-ce qu'elle est totalement maintenue? Il existe juste une déhiscence de la paroi, une petite ouverture de la paroi, ou alors est-ce que il y a des éléments abdominaux qui peuvent avoir tendance à sortir? Auquel cas, on n'est pas du tout dans le même degré. Donc ça, c'est le médecin spécialiste qui va vous dire est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il faut opérer ou pas.
Alors Roméo, je vous repose une question, parce que tout à l'heure, vous avez dit j'ai consulté par téléphone un médecin à Paris. Est-ce que vous avez vu quand même un médecin à Kinshasa pour lui montrer, pour avoir une consultation précise, un diagnostic précis, de visu, qu'il vous consulte, qu'il vous ausculte directement d'homme à homme?
Et justement, par téléphone, c'était avec mon frère qui est en France, qui est médecin.
Mais vous n'êtes pas allé voir un médecin à Kinshasa?
Je suis allé, justement, je l'ai dit, moi, je n'ai pas bien suivi. À Kinshasa, j'étais passé voir un de ses collègues médecins qui m'a examiné, et c'est à l'issue de ce diagnostic que je vous adresse ces propos.
D'accord, donc
il
avait
justement dit qu'il y avait une petite ouverture, je ne sais pas là. Après, c'est encore très petit au niveau de la laine du côté gauche. Oh, mais il m'avait dit que c'était pas si grave que ça. Vous devez juste tenir compte de ce qu'il m'a dit.
Docteur Sanis, est-ce qu'il y a certains exercices qui peuvent accentuer la hernie?
Voilà. Alors, donc là, ce qu'il faut en fait essayer d'éviter, c'est certains exercices qui vont être mal faits, glotte fermée. C'est-à-dire, vous savez, les, comme si on pousse, hein, imaginez, je ne sais pas moi, vous soulevez quelque chose de lourd, hein, vous allez aux toilettes, vous avez la glotte fermée et vous poussez. Et à ce moment-là, effectivement, ça peut avoir tendance à donner des pressions sur la paroi abdominale. Mais à l'inverse, si vous maîtrisez certains muscles, et je pense des muscles abdominaux comme le muscle transverse, enfin voilà, des muscles très spécifiques qui permettent de maintenir cette paroi abdominale, eh bien au contraire, vous pouvez même un petit peu renforcer cette paroi. Donc il y a des exercices spécifiques qui sont à faire, généralement par un professionnel qu'on appelle un kinésithérapeute, et qui vous permet de ne pas aggraver en tout cas les choses. Et puis, bien évidemment, il y a des exercices qui poseront moins de problèmes. Donc tous les exercices de force à glotte fermée sont à risque. Hein. Et puis tous les exercices, au contraire, qui vont être en endurance, qui vont être doux, comme la marche, comme les étirements, certains exercices en gymnastique, la natation, eh bien, vont poser moins de problèmes. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est trois choses. Un, bien vérifier auprès de votre médecin, vous l'avez fait, qu'il s'agit d'une hernie légère qui ne nécessite pas une intervention, qui n'a pas de risque particulier. Deux, faire des exercices qui vont permettre de renforcer certains muscles. On pense particulièrement aux muscles transverses pour renforcer cette paroi abdominale. Trois, favoriser des exercices qui sont pas à risque.
Et bien respirer. Hein.
Et bien respirer, bien sûr, qui sont pas à risque, comme la marche, la course à pied, la natation.
Voilà pour ces conseils, Roméo. On vous souhaite une excellente journée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Kinshasa que l'on ne quitte pas parce que l'on retrouve tout de suite en ligne Eugène. Bonjour Eugène.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Eugène.
Ok, merci. Ma première question est la suivante. On nous dit qu'il faut consommer chaque jour 5 fruits et légumes. Alors je voudrais savoir à quel moment exactement il faut manger les fruits. Est-ce avant ou après le repas?
C'est une première question qui s'adresse directement à Stéphane Besançon. Ces fameux 5 fruits et légumes, quand les consommer?
Ben, ça dépend vraiment. Moi, je dirais que ce qui est très intéressant avec les fruits, c'est justement de remplacer toutes les collations, si on a des petits creux, dans la matinée ou dans l'après-midi, qu'en général, on va combler avec des aliments ultra transformés ou des beignets ou des choses très grasses et très riches. La pomme, pour ça, est très très bien, par exemple. Son apport en sucre est limité, son apport en fibres est plutôt intéressant. Donc ça, ce serait plutôt justement pour combler le creux, j'allais dire, le matin et l'après-midi. Et après, on peut aussi utiliser les fruits en dessert, par exemple. Si jamais le repas n'a pas été suffisant et qu'il y a un petit creux, eh ben, c'est toujours mieux de manger un fruit que de manger un gâteau ou quelque chose comme ça. Donc je mettrais plutôt sur ces moments-là qui me semblent les moments importants. Et pour revenir, comme la question était sur les fruits et les légumes, et par contre au moment des repas, c'est là où il doit y avoir des portions importantes de légumes. Parce qu'il faut bien rappeler, c'est que c'est pas la recommandation, c'est pas 5 fruits ou 5 légumes physiques en fait, parce que souvent on nous pose cette question en disant mais comment on mange par exemple 5 choux-fleurs par jour. C'est des portions, c'est-à-dire c'est dans une assiette, là j'allais dire le 3/4 d'assiette le midi et le soir rempli de légumes. Il peut y avoir plusieurs légumes mixés, plus on diversifie mieux c'est en plus. Donc c'est ça qu'il faut rappeler. Donc je dirais que pour ces 5 fruits et légumes par jour, une bonne portion de légumes à chaque repas et les fruits pour les collations, pour le goûter et qui peut être aussi un très bon dessert.
Voilà pour cette réponse à votre première question. Eugène, vous disiez que vous aviez une deuxième question, on vous écoute.
Oui, ça concerne en fait la consommation des œufs, particulièrement les œufs de caille. Les cailles, j'espère que ça existe aussi chez vous.
Ah, ça existe, là-bas. Oui, absolument.
Alors, oui, il y a une communauté chez nous ici qui recommande aux gens de consommer, en fait, de prendre des cures des œufs de caille. Parce que, semble-t-il, les œufs de caille ont des grandes vertus thérapeutiques. On recommande, par exemple, pour des cures préventives, de consommer 50 œufs, en fait, et de prendre ça 2 fois par an. Pour des cures d'entretien et de maintien de l'organisme, là, il y a, par exemple, on dit 120 œufs. Donc, la cure des 120 œufs pour un bon rendement sexuel. cure de 240 œufs pour lutter contre l'obésité, l'hypertension, les diabètes, les maladies cardiovasculaires. Donc, il y a une liste de plus de 30 maladies ici qu'on peut guérir ou prévenir en consommant les œufs de caille.
Vous nous parlez de ces dizaines d'œufs, mais, excusez-moi Eugène, à quelle fréquence ces œufs? Parce que ce n'est pas 50 œufs par jour. C'est sur quelle durée?
Oui, on dit il faut prendre deux œufs par jour. Vous mélangez ça avec le miel.
Cru
vous
donc.
Vous prenez ça très tôt le matin.
Cru.
Sans manger autre chose.
Vous mangez
et
les.
Vous allez manger 4 œufs ou 4 heures.
Vous mangez les œufs crus avec le miel?
Alors, je voudrais savoir. Allô?
Vous battez les œufs crus avec le miel?
Oui, les œufs crus.
Ah, d'accord.
Mélangez ça avec le miel. Et vous en prenez une fois le matin. Et vous allez manger après 2 heures au moins ou 4 heures au plus. Alors, je voudrais savoir si c'est vrai.
Ben, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, je donne la parole à Stéphane Besançon. C'est peut-être un éleveur de caille hein, qui a proposé ce régime. Parce que là, il peut écouler ses œufs de caille, en tout cas. Stéphane Besançon, je vous donne la parole. Je ne vais pas rire longtemps, mais quand même, j'avais envie de faire cette petite blague.
Alors, déjà, la première chose, avant d'aller sur les œufs de caille ou les choses comme ça, il faut rappeler aux auditeurs, le redire à chaque fois, il n'y a pas d'aliments qui guérissent le diabète, qui guérissent l'hypertension. C'est des maladies chroniques aujourd'hui qui se traitent, on peut très bien les traiter, mais elles ne se guérissent pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler à chaque fois. Maintenant, alors là, tout à l'heure, on parlait de 2 œufs le matin, 4 le midi, alors peut-être encore 4 le soir. Enfin, je pense pas...
Même si les œufs de caille sont plus petits qu'un œuf de poule, mais quand
même. Je ne pense pas qu'un régime à base de 10 ou 15 ou 20 œufs par jour soit très très bon de manière globale, surtout mélangé avec du miel. Et surtout,
très concrète, Stéphane, des œufs crus, il n'y a pas un danger avec des bactéries ou des choses quand on les ingère crus?
Ben, disons que oui, il y a un vrai enjeu, il faut faire attention au moment de casser l'œuf, j'allais dire.
Qu'il soit frais.
Puis qu'il soit propre autour, parce qu'après, il peut rentrer des salmonelles ou d'autres choses. Donc, effectivement, il y a ce côté-là. Et l'autre côté, c'est que je ne connais pas, moi, pour ma part, et je pense pas que Jean-Marc plus que moi connaisse un effet miracle de l'œuf de caille. Je pense qu'effectivement, on est un peu sur une croyance. Alors après, manger de l'œuf de caille.
Avec du miel, c'est fortifiant. Forcément, ça doit, je sais pas, j'imagine, dans la croyance populaire.
Il y a une croyance sur le miel déjà. Il y a une croyance sur le miel qui justement dit, on avait fait une chronique d'ailleurs, je pense l'année dernière là-dessus, que c'est un aliment contre le diabète, contre l'hypertension, etc. Donc là aussi, on avait déjà modéré à l'époque en disant attention, le miel c'est quand même très 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 sucré, donc on peut pas se servir du miel comme antidiabétique, c'en est pas un, même s'il a d'autres propriétés intéressantes. Donc là, peut-être le mélange des deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est pour prévenir des maladies chroniques, si c'est pour prévenir l'obésité, la solution aujourd'hui, c'est pas un régime spécifique avec 40-50 œufs par jour plus du miel, c'est de revenir à une alimentation équilibrée avec plus de légumes, plus de fruits et une activité physique importante. Et tout ce qui a été dit en plus, si on parle de la vigueur sexuelle, si on parle de toutes ces choses-là, ça fait partie de l'état général. Et si on améliore l'état général, tout s'améliore de manière conjointe, j'allais dire.
Mais ça ne soigne pas, en tout cas,
non.
On a compris.
Ça ne soigne pas. Et de deux, il faut le redire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on revoit. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, beaucoup.
Les régimes miracles. Hein.
Les régimes miracles et les produits qui guérissent des maladies dont aujourd'hui, elles ne se guérissent pas. Et alors, les gens, souvent, vous disent oui, mais parce qu'on ne connaît pas. Mais si on connaissait des produits qui guérissaient des maladies qui touchent 300-400 millions de personnes, vu le marché financier qu'il y aurait derrière, les compagnies se seraient jetées sur ces produits. Hein. Faut être très clair.
Voilà, Eugène. Hein. Donc, ces cures miracles, eh bien, ce ne sont pas des cures miracles, tout simplement. On vous souhaite une très bonne journée à Kinshasa. On va tout de suite prendre un auditeur qui nous appelle du Mali, de Bamako. C'est Salim qui est en ligne. Bonjour Salim.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Salim.
Ok. Donc j'ai 1m75, j'ai un poids de 53 kilos. Donc je vais prendre du poids quoi, sur le site.
Vous avez quel âge, Salim?
J'ai 27 ans.
Donc cette question, d'ailleurs, elle revient souvent, cette question, je ne sais pas à qui m'adresser, peut-être Stéphane Besançon. vouloir grossir, se trouver trop maigre, c'est quelque chose, c'est une préoccupation assez fréquente chez les hommes, chez les femmes également. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes qui souhaitent grossir ?
Alors, je suis rapidement en train, pendant la question, je suis en train d'essayer de calculer son indice de masse corporelle avec mon téléphone, qui effectivement est un peu bas, mais pas du tout dramatique. Donc déjà, il n'y a pas d'urgence, j'allais dire médicale, à prendre énormément de poids. Il faut être déjà très clair. Maintenant, il y a le phénomène social. Hein. Je pense que Salim, il vit au Mali. Au Mali, la question du poids est aussi une question importante par rapport au rendu société, comment on me voit. Donc quand effectivement, là, on arrive à un indice de masse corporelle qui est bas, donc il doit avoir un profil extrêmement mince, qui peut être vu justement, je pense. Salim, c'est votre problème. Je pense que les gens doivent vous dire, vous demander si vous avez un problème ou quoi que ce soit parce que vous grossissez pas et que vous restez très mince. C'est ça votre problème ?
Oui, effectivement, c'est ça.
Oui, alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous mangez, est-ce que vous mangez correctement ? Enfin, je veux dire, à votre faim, vous mangez bien, vous vous sentez bien, à part ce problème d'image, autrement, vous, dans votre corps, vous vous sentez bien ?
Oui, je me sens très très bien, oui. Je mange bien aussi.
Vous mangez bien, vous n'êtes pas fatigué, par exemple, hein ?
Bon, fatigué, non, bon, je fais le sport, quoi.
Alors, si vous mangez bien, que c'est votre poids, j'allais dire, de forme, que vous êtes bien, que vous n'avez pas de symptômes autres, que votre métabolisme fonctionne comme ça et vous donne ce poids-là, j'allais dire que c'est pas vraiment la peine d'aller lui chercher des problèmes, j'allais dire, et le pousser votre métabolisme à faire plus, à dépenser plus, à aller chercher plus, parce qu'après, c'est là où vous allez plutôt avoir tendance à dérégler ce métabolisme, s'il fonctionne bien et que vous êtes bien. Donc après, il faut faire avec ça, j'allais dire, parce que le risque que vous avez, c'est que si vous poussez à grossir pour grossir, après là vous risquez des problèmes. Après, si vraiment vous mangiez pas assez, vous aviez des problèmes, vous aviez des choses, là on peut regarder s'il y a un sous-poids, j'allais dire, qui est pathologique, mais là ça a pas l'air d'être du tout le cas. Donc du coup, je pense qu'il faut rester comme ça et réexpliquer aux gens que c'est votre poids de forme et que vous n'avez pas de problème particulier, même si je sais, vivant une bonne partie de l'année à Bamako, que la pression sociale sur cette question de poids peut être très très forte.
Et Salim, dans votre famille, les hommes sont eux aussi assez minces ? Peut-être que c'est aussi un trait héréditaire. Les gens vous ressemblent dans votre famille et sont eux aussi assez minces ?
Oui, parce que mon papa, il est mince, ma maman, elle est grosse. Mais tous mes grands-frères, là, ils sont tous...
Tout le monde est mince dans la famille.
Oui, non.
Docteur Sen.
Effectivement, ça veut dire, Salim, que effectivement, le poids, de manière générale, et sa composition corporelle, c'est-à-dire le fait qu'on soit fait de muscles, de gras, etc., est avant tout déterminé génétiquement. Donc à partir, effectivement, c'est ce que Stéphane disait à l'instant, à partir du moment où vous avez un apport alimentaire correct, que vous êtes en bonne santé, que vous vous sentez bien, que vous n'êtes pas fatigué, c'est votre poids normal. Une petite chose pour vous rassurer, c'est que généralement le poids augmente avec l'âge. Donc pendant quelques temps, vous verrez, avec la sagesse, votre poids va également augmenter. Le grand risque, effectivement, ça a été rappelé, c'est d'éviter les excès, que ce soit en termes d'alimentation ou que ce soit en termes d'activité physique, pour essayer de prendre un poids qui serait, entre guillemets, indu.
Alors voilà, Salim, hein, ces propos rassurants. Très bonne journée à vous. À Bamako, au Mali, on va partir pour la Mauritanie. Nouakchott, retrouver Bouna. On vous écoute, Bouna. Bonjour.
Bonjour, Caroline. Bonjour, Jean-Marc et Stéphane.
On vous écoute.
Je me permets de les appeler par leur prénom parce que ce sont mes copains. Je les écoute tous les jours après.
Vous avez bien raison. Vous avez bien
Bonjour,
raison.
Bouna. Bonjour.
On vous écoute.
Très bien. Je suis parent de 4 enfants hémophiles. Et moi-même, je suis adepte du sport. Et on nous demande souvent à l'hôpital de faire en sorte qu'ils ne jouent pas des jeux dangereux. On nous donne beaucoup de conseils que je comprends. Mais vu qu'il n'y a pas de piscine chez moi, je m'appelle parfois de les amener avec moi courir ou bien au moins marcher un peu. Mais ils les traînent les pieds, ils n'aiment pas. Ils préfèrent plutôt jouer avec leurs camarades, ce qui peut s'avérer dangereux pour eux. J'ai bien envie d'avoir des conseils là-dessus. D'autre part, il y a leur maman qui aimerait bien les traiter comme des images, quoi. Elle les lave très bien, elle les habille très bien et elle les met devant la télévision. Et ça, je sais que c'est dangereux. Je suis dans une impasse.
Ils ont quel âge, ces enfants, Bouna? Excusez-moi, ils ont quel âge, ces enfants?
Les deux grands qui commencent à prendre un peu de poids, ils ont 15 ans et 9 ans. Mm-hmm. Les autres sont trop petits.
sont trop petits. Donc cette question que pose indirectement Bouna, docteur Jean-Marc Sen, des enfants hémophiles, donc une grave maladie, des enfants fragiles, est-ce que pour autant il faut les priver d'activité physique et de sport ?
Alors bonjour Bouna, effectivement en fait le fait d'être hémophile, donc c'est ce risque de saignement qui est augmenté. D'abord il faut dire qu'il existe une grande diversité hein, de niveau de gravité de l'hémophilie, et ça c'est très important parce que ça va déterminer éventuellement les activités que vous allez pouvoir conseiller à vos enfants. Demandez tout simplement à votre médecin, au médecin qui les suit, quel est le niveau d'importance de l'hémophilie, et puis surtout il existe des attitudes pratiques à avoir en cas de problème, et donc il faut rappeler bien tout cela pour pouvoir partir à faire de l'activité physique de manière plus sécuritaire. Alors évidemment, ce qui peut poser problème, c'est les chutes, c'est les chocs hein, qui peuvent poser des soucis. Mais il est souvent possible, en faisant des activités qui sont adaptées, de limiter ces risques. Alors bon, vous avez parlé de la marche, vous avez parlé pourquoi pas de la course à pied. C'est vrai que la natation c'est compliqué si on n'a pas de piscine, souvent des éléments de gymnastique sont tout à fait possibles. Il y a des sports qui sont sans contact. Hein. Je pense au volleyball, je pense en tout cas, enfin, le volleyball peut avoir des contacts, mais en tout cas qui sont plus limités quand même qu'au rugby. Je pense au tennis, je pense voilà à un ensemble de jeux qui peuvent être tout à fait ludiques et qui donc peuvent bien sûr plaire aux enfants et qui peuvent entraîner une dépense d'activité physique sans choc et avec en tout cas en limitant considérablement le risque de choc et de chute. Et donc, je crois que c'est vers ça qu'il faut plutôt s'orienter.
C'est vrai que la marche pour des jeunes, qui plus est pour des ados, c'est pas forcément quelque chose de passionnant.
Oui.
Alors,
pour
les motiver, c'est compliqué.
Alors après, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, comme la marche ou la course d'orientation. Mm-hmm. Qui rajoutent des jeux qui sont intéressants. Enfin, il y a un ensemble de solutions pour pouvoir essayer de trouver des activités qui sont ludiques et qui pour autant n'entraînent pas ce risque qui est accru et qu'il faut bien évaluer hein, avec le médecin, parce que hémophilie, voilà, c'est tout un champ, c'est très large, et donc savoir véritablement, et ça peut même osciller dans le temps. Hein, donc ça, il faut pas hésiter à vraiment poser cette question.
Mais ça va en tout cas dans le sens de ce que dit Bouna, ne pas élever pour autant ses enfants dans un cocon. Ne pas les priver d'activité totalement.
Surtout pas.
Il faut les ouvrir sur l'extérieur.
Ah oui, absolument, parce que sinon le grand risque, c'est au contraire d'être fermé, de ne même plus savoir quoi faire, de pas avoir, d'avoir aucun repère sur les activités qui sont possibles lorsque l'on est hémophile. Donc non, bien sûr, il faut au contraire leur donner cette palette d'activités possibles, connaître justement les limites possibles pour ces enfants et pour vos enfants, et puis éviter évidemment de les laisser devant la télévision, parce que ça, c'est quelque chose qui est nuisible pour leur santé.
Ouais, Stéphane Besançon, hein, si en plus on imagine l'obésité venait se surajouter à l'hémophilie, ce serait vraiment une très mauvaise chose pour la santé de ses enfants.
Oui, tout à fait. Et pour à peu près toutes les pathologies aujourd'hui, on sait qu'une activité physique modérée, surtout si c'est des pathologies lourdes, et une alimentation équilibrée, c'est ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire que c'est toutes les mesures d'accompagnement du mode de vie qui vont aider de toute façon à aller mieux. Donc si c'est que bénéfique en fait. Donc vraiment, il faut rajouter ça, et peut-être que Bouna peut échanger avec sa femme sur ce point-là en lui expliquant que de toute façon, ça va faire que améliorer la santé des enfants.
Voilà donc pour ces conseils, Bouna. On vous souhaite une très très bonne journée à Nouakchott en Mauritanie. Et donc dites à vos fils de se bouger gentiment, mais de se bouger quand même. On va maintenant donner la parole à Dieudonné qui est à Madagascar. Bonjour Dieudonné.
Oui, bonjour Madame Caroline Paré.
On vous écoute Dieudonné.
Oui, mais du moins, si j'ai mon problème là, j'ai été gravement malade. Je suis un sportif de haut niveau, j'ai arrêté, ça s'est passé là actuellement, j'ai 37 ans. Donc j'ai arrêté le football et j'ai commencé à entraîner des jeunes dans le football, mais moi-même je ne pratique vraiment plus. Je jouais régulièrement les week-ends et récemment j'ai arrêté pendant 3 mois parce que dernièrement j'étais malade, j'ai eu une attaque du côté droit qui a été complètement paralysée. Le médecin m'a diagnostiqué que c'était le nerf sciatique. Et il m'a dit, voilà, il n'y avait pas un traitement approprié à cela. Il me fallait juste prendre des antidouleurs, des calmants et attendre un mois maximum, un mois et demi. Mais là, je suis presque à 3 mois déjà. Je n'ai pas retrouvé l'usage total de ma jambe. Je ne parviens même plus à faire du sport. Je peux courir. Même en marchant, je boitille toujours. Donc, je voudrais savoir si que dois-je faire pour retrouver l'usage de ma jambe et aussi quel est le risque que je cours d'un handicap par rapport à cela.
Docteur, j'ai deux questions à poser. Docteur Jean-Marc Sen, qu'est-ce qu'on peut dire à Dieudonné, hein, qui souffre après cette sciatique? Les médicaments, les antidouleurs, visiblement, n'ont pas agi. En tout cas, il n'a pas récupéré. Il souffre et il s'inquiète pour son avenir de sportif et simplement pour sa santé.
Oui, bonjour Dieudonné. Alors effectivement, lorsqu'on parle de sciatique, il faut savoir que c'est un nerf qui prend racine vraiment dans le bas du dos. Hein, et que ce nerf-là va partir du bas du dos, va traverser le bassin et la cuisse et va aller ensuite jusqu'au niveau du pied. Alors quelquefois il est effectivement irrité et à ce moment-là c'est important de savoir quelle est l'origine de cette irritation. Alors quelquefois on a des douleurs lombaires et puis une sciatique qui dure quelques jours ou quelques semaines et à ce moment-là des mesures, continuer à faire de l'activité physique, faire un renforcement des muscles abdominaux et lombaires et puis étirer, faire certains étirements peut suffire. Si vraiment vous avez un déficit moteur, c'est-à-dire que vous avez vraiment une paralysie qui persiste, éventuellement des troubles de la sensibilité et puis particulièrement savoir si au niveau de votre périnée, vous savez, le petit bassin, vous avez des troubles de la sensibilité, à ce moment-là, quand même, ça mérite d'être plus exploré sur le plan médical, peut-être ou d'aller voir un spécialiste, ou d'aller faire une imagerie, notamment de la partie, ne serait-ce qu'une radio, hein, de la partie basse de la colonne, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. En tout cas, si vous avez une paralysie qui persiste, un déficit vraiment moteur, si vous avez des troubles de la sensibilité, bien sûr, qui persistent, et particulièrement au niveau du petit bassin, il faut essayer d'aller voir un spécialiste pour comprendre ce qui se passe au niveau de votre dos.
Voilà, docteur Jean-Marc Sen qui vous incite, Dieudonné, à aller consulter pour poser des questions à un médecin. On vous souhaite une excellente journée à Madagascar. Il nous reste moins d'une minute. J'ai des questions Facebook. Je les pose le plus rapidement possible. Je fais du sport. Je consomme beaucoup de café en parallèle. Est-ce que ça fait bon ménage? Question de Bécaille qui pose donc cette question du Sénégal. Stéphane Besançon, café, sport, ça va ensemble?
Oui, si la consommation de café est modérée, raisonnable, pour moi, il n'y a pas de souci particulier. C'est clair qu'il ne faut pas boire 2 litres de café par jour, de manière, de toute façon, globale. Mais non, il n'y a pas de problème particulier.
Et puis, une autre question, hein, très rapidement. Aliments déconseillés, c'est Kalilou du Bénin qui pose cette question. Aliments déconseillés ou conseillés quand on a des problèmes de constipation?
Alors déjà, il faut rappeler pour la constipation qu'il faut bien s'hydrater, ce qu'on oublie souvent. Et après, il faut augmenter la consommation de fibres pour être très rapide. Ça veut dire plus de fruits, plus de légumes, une bonne hydratation et toutes les céréales blanchies. Parce que comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, au Bénin, on mange beaucoup de céréales blanchies, complètement blanchies. Il faut réduire un peu la consommation d'amidon et augmenter la consommation de fruits et de légumes. Et je leur dis aussi pour la constipation, il faut bien s'hydrater parce qu'on oublie souvent ça. C'est aussi une composante importante.
Merci. Merci messieurs, Stéphane Besançon, nutritionniste, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. On se retrouve toutes les semaines dans Priorité Santé. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise cette émission. Demain, Santé Mère-Enfant en Côte d'Ivoire, un reportage signé Charlie Dupio à Abidjan. Et pour donner votre avis sur l'émission, toujours notre page Facebook et notre numéro de téléphone.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui prend en charge celles et ceux qui vous sont chers grâce à son assurance d'essai. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.